Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
We're consumers, Jim. Okay, buy a lot of stuff, you're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you then, I ask you? What? Mentally ill. Back, Jim, back. If you don't buy things, toilet paper, new cars, computerized blenders, electrically operated sexual devices, stereo systems with brain-implanted headphones, screwdrivers, miniature built-in radar devices, voice-activated computers.
Take it easy, Jeffrey. Be calm.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur, David Jonf. David, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ouf! C'est, pour ceux qui espéraient nous écouter live ce matin, peut-être que ça allait faire comme coudon, il était où? On a juste une petite demi-heure de retard, là. C'est la merveille, tu sais, à chaque semaine, on utilise exactement le même setup depuis une vingtaine d'épisodes là, qu'on fait avec le YouTube. Ça va, y a pas de problème. Puis là, aujourd'hui, il y a plus rien qui fonctionnait. Pourtant, j'ai même pas ouvert, tu sais, j'ai rien ouvert là, cette semaine. De ça, fait que par un procédé miraculeux, tout a chié. Fait que j'ai passé une demi-heure à m'arracher les cheveux. L'affaire, c'est qu'il me reste de moins en moins, il faudrait que j'arrête de faire ça. Fait que, ouais, mais là, on est là, puis on a une émission, puis ça marche, puis c'est magnifique. Fait que toi, t'as passé une belle semaine?
Oui, j'ai passé une belle semaine, oui, ça s'est bien passé, tranquillos. J'ai écouté un bon film, fait que ça coule.
T'as écouté un bon film, excellent. Fait qu'on va aller justement parler de ce bon film. Présente-nous-le.
Donc, le film de la semaine, il s'agit de 12 Monkeys avec Bruce Willis, un film de 1995. Donc, pour ce qui est de l'histoire du synopsis, donc c'est un personnage du nom de James Cole qui est envoyé dans le passé pour... il y a eu un virus qui sera libéré sur la planète, et qui tuera genre 90% de la race humaine. Donc lui, James Cole, il est envoyé dans le passé pour déterminer qui a fait quoi, comment. Pour après ça, quand il retournera dans le futur, pouvoir dire aux scientifiques du futur, c'est ça la solution à votre problème, faites ça comme ça, puis ça devrait arriver, ça devrait être correct. Sauf que, évidemment, quand il s'en va dans le passé, on réalise à un moment donné, spoilers, t'as-tu ton piton, spoilers?
Ah, ouais, c'est vrai.
Spoilers. Que, en fait, c'est lui qui, par ses actions, déclenche le virus. Mais, encore une fois, le bouton spoilers.
Spoilers.
Finalement, non. Peu importe ses actions, ça se serait passé anyway. C'est pas parce qu'on l'a envoyé dans le passé que le futur va arriver. En tout cas, bref.
C'est complexe, un peu. C'est compliqué, hein?
Non, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, ben, on va mettre des mots sur des noms sur les personnages. Donc, Bruce Willis, ben, les noms des acteurs, mettons. Bruce Willis s'en va dans le passé. Puis là, pendant un bon bout du film, on pense que, puisqu'il a été envoyé dans le passé, il a donné une idée à Brad Pitt. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas Brad Pitt pantoute qui est l'initiateur de l'affaire, c'est l'autre acteur dont le nom m'échappe. Son nom est...
Excuse-moi, je faisais... On va t'entendre en double à un moment donné, ce stream. Tu sais, je vérifiais si ça marchait comme il faut sur mon cellulaire. J'ai oublié que j'avais un speaker allumé. Un speaker Bluetooth allumé à côté de mon micro. Excusez. Je suis professionnel. Je suis un professionnel. Oui. Comment il s'appelle l'autre acteur? Ouais. C'est Brad Pitt? Non, le gars qui fait...
Non, le scientifique, finalement, c'est lui qui s'en va en voyage à la fin. Là.
Ah oui, ouais, je l'ai pas mis dans la liste d'acteurs parce que je le trouve. En tout cas, je trouve qu'il est un peu. On va le trouver. Je sais pas c'est qui.
Je retrouve pas ses photos sur sa photo sur IMDb.
David Morse? Ouais. David Morse.
Quelque chose comme ça.
David Morse.
Bref, c'est lui voilà. Qui, ouais. David Morse, ben, et voilà, c'est ça.
David Morse, que j'ai déjà vu dans d'autres affaires.
Oh, plein de trucs.
J'aime pas ses cheveux dans celle-là, en tout cas.
Non, c'est pas mal. Ben, en fait, c'est qu'ils ont essayé d'avoir les mêmes cheveux que Brad Pitt pour nous faire penser que c'est Brad Pitt, mais pas
ouais, mais c'est quand même vraiment malette. Mais oui, mais je trouve que... moi, j'adore 12 Monkeys. Hein. C'est un film que j'ai dû voir un million de fois. Là. Puis... je trouve que c'est une bonne histoire de voyage dans le temps. Puis comme tu disais dans ton résumé, là, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il fait, l'événement va arriver. Mmh. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça comme histoire. Tu peux pas... Il peut pas changer le passé.
Non, il retourne dans le passé pour pouvoir pas changer le futur, mais pouvoir prendre de l'information qu'ils vont utiliser dans le futur. C'est pas pour changer ce qui est arrivé, c'est pour changer la direction là où est-ce qu'ils sont rendus dans le futur.
Je trouve ça vraiment cool. Je sais pas toi, je trouve ça intéressant comme manière de voir le voyage dans le temps. Ouais. Plutôt que de revenir en arrière puis tu sais comme changer les événements. C'est ça, tu ne peux pas. C'est le, tout le concept de l'inévitabilité là, du passé dans le fond. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Là.
Une chose que je trouve intéressante aussi, c'est que il arrive dans le passé, Bruce Willis, puis il dit « Non, mais gars, tout ce qui va arriver, ça va arriver, vous allez tous mourir de toute façon, je suis pas là pour vous sauver. » Puis plus le film avance, plus il embarque dans cette espèce de piège-là, où est-ce qu'il se dit « Hey, peut-être que je vais réussir à changer le futur. » Puis finalement, non, pas pantoute. Mais la prémisse, c'est que non, il sera pas capable. Fait que lui aussi, le personnage, il se laisse embarquer dans cette espèce de désir-là de changer le futur, alors que non, c'est inévitable. Puis à un moment donné, c'est ça, il pense que c'est par son arrivée dans le passé qui a créé l'événement, puis qui a donné l'idée à Brad Pitt. Finalement, non, pas pantoute. C'est un autre gars, un autre fou ailleurs qu'il n'a jamais rencontré, qui, lui, va péter sa coche. Puis il va donc libérer un virus sur toute sa planète. Non, c'est vraiment une histoire qui est très bien ficelée, qui est très, très bien construite. Bravo aux auteurs. J'avoue que je peux aller voir c'est qui les auteurs de cette affaire-là. Mais,
il me semble que c'est un remake, si je m'abuse.
Oui, c'est ça. C'est un remake d'un film français qui s'appelle Les 12
La Jetée.
La Jetée, voilà.
C'est un court-métrage qui est sorti le 16 février 1962. Un court-métrage de 28 minutes. Dans le fond, ça part de là... Ouais, mais c'est super bien fait, c'est bien ficelé. Parce que, tu sais, comme tu disais aussi, sa mission originale, quand il se fait envoyer, c'est de collecter de l'information pour qu'après ça, un scientifique du futur soit envoyé pour contacter la personne qui va relâcher le virus. Ce qui... Aujourd'hui, je pense qu'on va utiliser beaucoup ce piton-là. Ce qui arrive à la fin du film.
Spoilers!
On voit...
Ce qui arrive à la fin du film.
Ben ouais, quand le
okay, méchant, ouais, ouais.
Il est dans l'avion.
Ouais, c'est ça.
Il est assis. Parce que dans le fond, c'est qu'elle va aller chercher des informations pour savoir comment guérir, tu sais, comme puis pouvoir guérir le virus dans le futur. Que les humains retournent sur Terre, c'est ça qui est génial. Puis
Elle dit qu'elle travaille dans les assurances alors que c'est une
scientifique. Ouais, un peu, tu sais, c'est comme un genre d'assurance.
Ouais.
Mais ça, tout ce concept-là est intéressant. Je sais pas comment t'as trouvé aussi le concept de... bon, il y a 5 milliards d'humains qui sont morts. Le reste de la population qui a survécu, ils ont été envoyés sous terre. Mm-hmm. Puis toute cette espèce de prison où tu vois... Cole, ouais. Puis ça, je sais pas comment t'as trouvé ça, tout ce côté-là de l'humanité sous terre, là.
Ben, je trouve que c'est assez efficace dans la mesure où ça permet de bien saisir l'aspect complètement dément de la nouvelle société à très peu de coûts pour le film. Parce que c'est un film qui a été fait avec un tout petit budget, là. D'ailleurs, en faisant mes recherches là, pour ma question du geek, ça veut dire que Bruce Willis a pas été payé pour le film?
Hein?
Il a fait ça gratis. Parce qu'il voulait travailler avec le réalisateur, Terry Gilliam. Puis, mais finalement, il a reçu un salaire une fois que le film est sorti puis que le film a fait de l'argent.
Ouais, il a fait beaucoup d'argent, en fait.
Oui, mais c'est ça. Mais il a reçu son salaire a posteriori pour que le film ait lieu. Et il y a Brad Pitt aussi qui a eu un salaire microscopique parce qu'il a passé une audition, pardon, puis il a signé le contrat pour 12 Monkeys avant de faire les films qui l'ont fait connaître. Genre Legends of the Fall, puis une couple d'affaires de même, là. Fait que il a signé le contrat pour 12 Monkeys avant d'être une grosse star américaine. Fait que son salaire était microscopique. Là.
Juste avant 12 Monkeys, il y a eu Seven. Aussi, c'est un très
gros rôle. Oui, c'est ça, Seven.
Legends of the Fall, Interview with the Vampire.
C'est ça. Il a signé 12 Monkeys avant de tout faire ça. Fait qu'il était pas connu, vraiment. Ils l'ont eu à rabais, autrement dit. Ça coûtait vraiment pas cher, tu sais. Dans les effets spéciaux, il y en a pas. Pratique, là, puis des affaires de lumière, mais il y a vraiment rien de disparition.
Pas grand-chose, hein.
Non, c'est ça. Mais moi, c'est une autre affaire que je trouve très intéressante de ce film-là, c'est l'aspect du voyage dans le temps. Comment il se promène d'un espace à l'autre. On s'en fout comment ça se passe, tu sais.
Ouais.
Visuellement, c'est intéressant, ça pourrait être intéressant, ça a été exploité dans plein de films, mais pour de vrai, on s'en fout. C'est pas ça qui est important dans l'histoire. Donc, est-ce qu'on le voit se promener? Non, jamais. Il est d'une place, non. Pouf, il apparaît à l'autre.
Mais ce que j'aime, c'est le côté qui a l'air quand même archaïque de toute cette affaire-là. Je sais pas si tu remarques, leurs machines n'ont pas de l'air super. D'ailleurs, la première fois, il l'envoie... 6 ans trop tôt, après ça il se fait envoyer pendant la Première Guerre mondiale où il croise un autre gars qui s'est fait envoyer aussi dans la Première Guerre mondiale, puis ça marche un peu tu croche leur affaire là.
Ouais. C'est vraiment pas super high techno là, c'est.
Non. C'est un peu broche à foin là. Non, tout ça est intéressant, puis c'est vraiment, puis je le répète, c'est une des bonnes histoires de voyage dans le temps, parce que je trouve que souvent ils dealent mal avec le paradoxe. Tu peux pas avoir deux personnes qui existent. Une personne peut pas exister à deux places en même temps, tu sais, nécessairement. Puis le film, il deal avec ça, t'sais, parfaitement, parce que il décide de rester là. Il décide que moi de la merde, je retourne plus dans le futur, moi je reste en 96. Il se fait tuer.
Ouais.
Il se fait tuer devant lui-même, tu sais, qui était enfant et qui se voit mourir. Écoute, c'est ça, la boucle est super intéressante.
Ça crée un traumatisme qui fait en sorte que quand il revient quand il est plus grand, il y a ce traumatisme-là qui fait en sorte que, tu sais, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Puis en plus, c'est ça, en fait, c'est qu'il se retrouve dans l'espèce d'asile, là, à cause de ce traumatisme-là, entre autres, qui le rend un peu weird. Non, c'est super bon comme histoire.
Non, moi, j'ai vraiment trouvé.
Une autre chose dont j'aimerais parler, là, c'est la dynamique avec Madden Stowe, avec le personnage de Catherine O'Reilly.
Sa psychiatre.
Riley. Quand il arrive, on va utiliser les noms des acteurs, parce que j'avoue que les noms des personnages, là, je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Bref, Bruce Willis arrive dans le passé, puis lui, il est totalement sain, parce que il sait d'où c'est qu'il vient, où c'est qu'il s'en va. Mais sa psychiatre pense qu'il est fou.
Ouais.
Puis plus il avance dans le film, plus il devient fou et plus elle pense qu'il est sain.
Ouais.
C'est un peu comme dans Doctor Who, généralement. Doctor Who avec River Song, où est-ce que le docteur, lui, plus il vieillit, plus il est en avant, mais River Song, on la voit à sens inverse dans le temps. Là, elle meurt dans le premier épisode, puis elle naît dans le dernier. T'sais. Fait que c'est un peu ce croisé-là, encore une fois, dans 12 Monkeys, où est-ce que lui, il est de plus en plus fou, puis elle le croit de plus en plus sain.
Mais c'est ça que j'adore aussi. Il y a toute la scène où, à un moment donné, elle est en train de dire que c'est vrai.
Ouais.
Puis que lui, il est en train de dire « Non, c'est pas vrai, c'est dans ma tête.
Dans ma tête.
C'est construit. » C'est hallucinant comme scène, parce que elle est comme non, 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 là, tu vis ça pas vrai. Non, 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 non. Jusqu'à temps, la scène où il s'arrache là-dedans, là.
Oh, oui. Ah ouais. Avec le pimp dans la toilette.
Avec le pimp.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là?
C'était cœur, hein? Cette scène-là, je l'adore. Parce que ça aussi, tu vois que le personnage de Bruce Willis est un peu. T'sais, il est en prison, tu vois, c'est un criminel, il a des tendances violentes. Puis probablement que ça a un lien avec le traumatisme qu'il a vécu en voyant quelqu'un se faire tuer quand il était jeune. Fait que.
C'est sûr.
Puis il est complètement. Il est fou, un peu. Là.
Ouais, ouais.
C'est ça que, à la limite, à un moment donné, tu commences à te dire sérieux, c'est-tu vrai?
Ouais.
Est-ce que tout ce film-là, c'est juste genre. L'histoire, c'est-tu juste un délire d'un fou? Où vraiment, le gars, il est dans le futur, puis il y a ça, puis... Fait que j'adore ça, cette espèce de doute-là que ça te met, là.
Ah ouais, non, c'est vraiment très, très bien construit. Mais moi, ce que j'aime, justement, dans ce scénario-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées. Mm-hmm. Sont dites, c'est acquis. Comme, mettons, on parlait un peu plus tôt du voyage dans le temps, là, tu sais. On voit pas la machine dans laquelle il se promène dans le temps. Ben, on la voit, là, vaguement, mais, tu sais, ouais. Juste shooté dans une espèce de gros anus, là, en tout cas. Non, ça a l'air d'un suppositoire pis d'un anus, là, on s'entend. Là.
C'est vrai, là. Il voyage par suppositoire.
Mais tu sais, quand il revient dans le futur... Oh, Back to the Future. Quand il revient dans le futur, on le voit pas. Il est juste là à un moment donné, puis la scène change, la caméra bouge, puis il revient, puis il est plus là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Comment je pourrais dire ça? Montrées... Pas montrées, mais... Qui arrivent, mais qui sont pas montrées. Disons ça comme ça.
Oh, ouais. Mais ils expliquent pas tout. Ils prennent pas par des épelles. Ils expliquent ce qu'ils doivent expliquer, puis le reste qui est autour, ben, c'est là, puis c'est tout. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Mais, as-tu remarqué une chose que j'ai toujours pas compris? C'est une espèce de truc qui revient beaucoup dans le cinéma hollywoodien. Quand on dit avec le voyage dans le temps, les vêtements.
Qu'est-ce que tu veux
Pourquoi?
Dire?
Pourquoi, genre, la plupart du temps, là, il y a comme deux fois qu'il voyage dans le temps, il est à poil, ses vêtements ils se rendent pas.
Non.
C'est comme. On est capable de voyager dans le temps, mais notre linge.
Pas les vêtements. comme dans le Terminator.
Ouais. J'étais là. Ah. Ok. C'est bon. T'sais, un jour, on va trouver comment voyager dans le temps, les humains, puis on va tout voyager tout nu. Parce que.
D'ailleurs, je sais pas si un jour on va faire un épisode de Vision X sur Terminator. Là.
Oui.
Mais moi, la question que j'ai pour toi. La question que j'ai pour toi, c'est dans Terminator 2. Ok. Donc, en fait, dans Terminator 1. Le lieutenant qui s'en va voir la mère de John Connor, il s'en va dans le passé parce que la chair, elle, ils sont capables de l'envoyer dans le passé, mais pas les vêtements, fait qu'il arrive tout nu. Le Terminator Arnold, ils réussissent à l'envoyer dans le passé, malgré le fait que ce soit une machine, parce qu'il y a de la chair autour de sa machine.
OK.
Mais pourquoi est-ce que le T-2000, le truc qui est en métal liquide, là, comment ça, ils réussissent à l'envoyer dans le passé? Il n'y a pas de chair.
Puis ouais, puis pourquoi il est tout nu?
Pourquoi il est tout nu?
Il n'y a pas de linge.
C'est... En tout cas, on en reparlera un autre tantôt.
Il va falloir qu'on fasse un épisode là-dessus. Non, mais... Ouais, c'était ma petite observation. Je fais toujours des observations par rapport, là. C'en est une.
Mais moi, ben, on suit pas vraiment l'ordre de notre affaire, mais ça te dérange-tu si on parle des costumes pis des...
Ouais, vas-y, on n'a pas besoin de suivre l'ordre, hein, tu sais, c'est je suis lousse dans la vie.
Ah, je savais pas. bref.
Pas partout.
C'est une chose que j'ai trouvé intéressante dans les costumes, c'est l'utilisation des costumes selon les époques.
Ouais.
La première fois, quand il est envoyé trop tôt dans le passé, parce que c'est ça, donc essentiellement, il arrive de 2025, 2035 dans le futur, je sais pas trop, on a fait la même, puis il s'en va dans le passé, puis la première fois, il est envoyé trop loin, au lieu d'arriver en 96, il arrive en 90. Les vêtements, c'est cool!
Ouais.
Ils ont vraiment réussi à déterminer la mode de cette année-là. Puis les gens arrivent avec cette mode-là, tu sais. Puis après ça, quand il est renvoyé en 96, la mode a changé légèrement 5-6 ans plus tard. Pas des millions, mais tu sais, il y a un souci du petit détail, là, c'est la fin des années 80, il y a T'sais. Les vêtements un peu fluo avec les trucs futuristiques pour l'époque, mais ils sont pas pantoute. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé ça.
Ah, c'est ça, il y a toute cette approche-là du, excuse-moi, du détail de différencier 90-96, ça c'est génial, j'ai adoré ça. Mais je sais pas, tu sais, tant qu'à parler d'un peu du sujet du visuel, il y a une affaire qui m'a un peu déçu, c'est quand ils sortent, quand au début du film, Bruce Willis il sort, puis il se promène dans Philadelphie, puis tu fais, hey, ça fait 30 ans que genre il y a pas d'humain là, sur la surface, là. La ville a de l'air relativement à bon état. Là. Il y a juste de la neige un peu partout, là, parce qu'il sort, j'imagine, en hiver. Là. Mais je sais pas, j'ai été un peu déçu de ce côté-là. Il me semble que si ça fait 30 ans là, qu'il n'y a plus d'humains sur la surface de la Terre, ça sera pas long là, que la végétation reprend sa place assez vite. Là.
Mmh. Ouais, mais non, mais je comprends, mais tu sais, faut... Moi, je pense qu'il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est l'aspect du budget, parce qu'ils ont clairement tourné dans la ville de Philadelphie simplement en hiver. Fait que, ils ne peuvent pas se permettre de modifier la ville tant que ça. Puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde de vue le fait que cette scène-là sert à placer géographiquement le gars sa map, tu sais.
Ouais.
Fait que si on s'en va trop loin de la ville, puis il n'y a pas assez de. On reconnaît pas assez la ville, ben à ce moment-là, la scène n'a pas vraiment d'impact. Cette scène-là, ça a vraiment à nous montrer, qu'il est à Philadelphie, que la ville est déserte et qu'il y a des animaux dedans. Fait que si on voit pas. S'il y a trop de végétation, puis qu'on voit pas les monuments, ben ça sert à rien, tu sais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les animaux, c'est à peu près les seuls effets spéciaux qu'on a de tout le film. C'est les animaux qu'on voit là.
Ouais.
Puis plus tard, à la fin, quand le personnage de Brad Pitt, là, Jeffrey Goins, ouais, il bat, c'est à peu près les seuls effets spéciaux qu'on voit du film, qui sont assez ordinaires, mais écoute, ça fait le job là, quand même. Mais ouais, moi j'aurais juste aimé ça, peut-être un petit peu plus un côté plus post-apocalyptique quand ils sortent. Là. Mais bon, en même temps, comme tu dis, c'est tellement pas important là, dans tout le truc du film. Puis une autre chose, je me disais, là, je sais pas si t'es d'accord avec moi, David, mais sérieusement, Philadelphie, au milieu des années 90, c'était si pire que ça? Ça a l'air vraiment horrible comme place. Ah, c'est dégueulasse.
Il y a des winos partout, il y a des graffitis partout, il y a des affiches de trucs un peu partout. Là. Non, c'est assez sale.
Ah, puis tu sais, l'espèce de vieux bâtiment, le vieux building qui croise qui est super beau, puis il y a comme plein de monde là, qui se réchauffe avec des poubelles, tu sais, des feux de poubelles.
Ouais, 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 ouais.
Holy shit, c'était de même pour vrai, Philadelphie! C'est quand même. C'est sûr, t'es sûr que ça se passe pas à Détroit, finalement? Oh.
t'as entendu parler des acteurs?
Bien sûr.
Bruce Willis,
il est bon dans ce film-là. Il est bon, il joue le rôle de Bruce Willis, mais un peu plus fou. Là. On s'entend à Bruce Willis, on dirait, pour moi, il y a comme un personnage, en vrai. Là. C'est Bruce Willis.
Ouais.
Mais il fait bien le côté disjoncté, déconnecté quasiment, qu'il finit par perdre la réalité de la fiction, dans le fond. Il fait super bien ça.
Ah oui, non, je trouve que moi, c'est son regard avec les deux petits yeux piteux, là, tu sais, de même, qu'est-ce que je fais là, où c'est que je suis, tu sais, il ne comprend pas trop, il est un peu perdu, tu sais. Il y a vraiment de ça. Je trouve que ça. Le casting est bon. Mm-hmm. Est-ce que la performance de l'acteur est grandiose? Je sais pas.
Moi, je trouve que c'est dans ses bonnes performances.
C'est dans ses bonnes performances, mais tu sais, comme je te dis, est-ce que c'est parce que lui a vraiment réussi à faire un travail d'acteur incroyable ou c'est parce que le casting est bon, tu sais?
Mmh. Ouais, mais même,
c'est efficace. Quand même... Reste que c'est efficace.
J'irai un crédit où le crédit est dû. C'est une expression anglaise que j'essaie de traduire instantanément. Mais non, écoute, il fait bien ça. Madeline Stowe qui joue Catherine Rayleigh, comment tu l'as trouvée?
Je l'ai trouvée bonne. J'ai trouvé ça intéressant parce que il me semble que dans mon souvenir, je l'ai souvent vu dans des films où est-ce qu'elle faisait la demoiselle en détresse, tu sais, qui était comme pas capable de rien faire. Ou ben, c'est sûr que moi, j'ai pas écouté Vengeance, mais Le Dernier des Mohicans.
Mm-hmm.
Elle était comme éplorée tout le temps. Là, dans ce film-là, je trouve qu'elle a vraiment réussi à nous donner un sentiment qu'à un moment donné, elle prend les choses en main. T'sais. C'est plus une femme ouais. de tête. Fait que j'aime ça un film où est-ce qu'on a un personnage féminin qui n'est pas juste témoin de l'action.
Ouais.
C'est le féministe en moi qui reprend le dessus. Mais donc, elle est pas juste, c'est pas une chicken a bucket, t'sais. Vraiment, elle participe à l'histoire, puis elle fait avancer l'histoire, puis comme on le disait tantôt, au début, elle pense que Bruce Willis est fou, mais il est fou, mais plus l'histoire avance, plus elle se rend compte qu'il est sain. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de prendre l'action. Donc, à un moment donné, c'est la prisonnière de Bruce Willis, il l'a kidnappé, tout ça. Mais un peu plus tard dans le film, c'est elle qui réalise que ça fonctionne. Donc, elle prend les devants, puis elle décide de l'amener, puis de faire ce qu'il doit faire, de l'aider dans ses missions. C'est vraiment elle qui prend les rênes de l'histoire à ce moment-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'un personnage évolue comme ça dans l'histoire, puis qu'elle reste pas juste ouais. une fille un peu perdue dans cette histoire-là de monde de gars. T'sais. Je trouve ça vraiment intéressant.
Mais écoute, c'est... C'est ça, ouais. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le fait qu'au début, elle subit un peu cette situation-là. Là. Mais plus ça va, plus elle prend le contrôle de la situation. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Je regardais un peu aussi ce qu'elle a fait. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de film. Hein. Son dernier film de 2003.
Ben, c'est parce qu'elle fait Vengeance.
Elle fait de la télé.
Qu'elle fait de la télé en masse. Là.
Elle a fait ouais, de 2011 à 2015. Puis elle a fait deux épisodes de la série 12 Monkeys. Mais elle joue pas. Elle joue un autre personnage. J'ai pas vu la série d'ailleurs, je sais pas comment. C'est bon, c'est ça.
C'est je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça,
c'est. Je sais pas.
Ah ouais, elle a fait beaucoup
d'affaires. Je fouille, mais on dirait que je vois pas ce que ça donne. Mais non, je l'aime bien. Mais moi, je trouve que le summum pis le top du film. Les acteurs, c'est Brad Pitt.
Ah ouais?
Ah, moi, c'est vraiment la performance pour moi dans ce film-là. Je l'adore dans ce film-là. Là.
Ben, ok, explique-moi ton truc, puis après ça, je t'expliquerai ma façon de penser.
Je trouve son personnage...
Ma façon de penser!
Le personnage de Jeffrey Goins, je le trouve super... Ben, premièrement, c'est un fou. C'est clair, il est un peu craqué, mais c'est un fou! Qui est semi-bright, semi-contrôlé. Puis je trouve qu'il y a tout ça un peu dans le jeu de Brad Pitt. Les scènes où justement, tu sais, comme ce que j'ai mis comme intro, où il parle, puis il part, puis ça va, puis c'est contrôlé, puis il dit des choses quand même sensées dans son espèce de délire. Là, il se met à partir sur... Puis ça finit tout le temps genre tout croche un peu n'importe comment. Là. Mais j'adore ça. Je trouve cette performance de fou est superbe. En tout cas, ça c'est mon avis.
Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Sauf que je trouve qu'à un moment donné, ça devient over the top. Ça devient une surperformance. Puis que,
à un moment donné. Tu fais du overacting?
Ouais, je trouve qu'il fait du overacting à un moment donné, puis que je finis par décrocher, tu sais. C'est ça qui me bug un peu, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que la limite, la frontière de. Du crescendo de l'acting, à un moment donné, il passe la frontière du OK, c'est trop un master, puis c'est juste un clown, tu sais, qui est en train de faire une espèce de mimique, là, tu sais, puis avec la main qui bouge tout le temps comme ça.
Ouais.
C'est ça qui m'a dérangé, tu sais. C'est juste que je trouve qu'il y aurait, ça aurait été plus efficace si à un moment donné, le crescendo avait été mieux pacé, puis qu'il n'avait pas été aussi loin que ça, tu sais. Parce que quand il explose, justement, je trouve que ça devient de l'overacting, puis ça me dérange un peu.
Là, j'ai l'impression que, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la volonté du réalisateur. Que ce qu'il a fait là, c'est ce que Terry Gilliam voulait, puis en même temps, ce que j'aime de son personnage, c'est que c'est un personnage qui est important, qui amène un autre aspect de l'histoire, où il parle beaucoup de... Il y a un côté de l'histoire de ce film-là qui dit... Ok, là, il y a un virus qui va tout nous wiper, pratiquement tout nous wiper. Mais que de toute façon, si on continue à vivre comme on vit, on va finir par se wiper inévitablement. Mm-hmm. Puis c'est le personnage qui est là pour dire ça. Puis si je reviens, l'inévitabilité est un grand thème dans le film. C'est ça. C'est comme peu importe, là, l'humanité va finir par chier à un moment donné. Là. Mm-hmm. Que ce soit par ça, par ci, par ça. Puis je pense que c'est ça, c'est le rôle de ce personnage-là. Puis encore une fois, c'est là que je trouve que vraiment Brad Pitt le fait bien. Mm-hmm. C'est l'espèce de fou, mais qui a un, il est sensé.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que tu as absolument raison. Sauf que c'est ça, c'est juste que je trouve qu'à un moment donné, dans le crescendo, à un moment donné, je trouve que ça tombe over the top. C'est juste ça qui m'a dérangé de sa performance. Mais je suis tout à fait d'accord, sa performance est géniale. Ouais. Puis, pour en revenir un peu aux costumes et aux effets, son œil qui est plus grand que l'autre, ouais. Je sais pas comment ils ont fait ça, là, mais man, c'est
réussi. Un verre de contact, là, j'imagine.
Mais c'est cool, là, c'est vraiment, ça fait
Avant de tourner chaque scène, ils mettent des gouttes dans les yeux là, pour dilater. Là. Ouais, juste dans un œil. Mais. Puis je pense après ça, sa performance, ça devient une question de goût. T'sais. C'est comme on aime. C'est bien des gens qui aiment le Nutella, mais il y en a qui l'aiment plus que d'autres sur leur toast.
C'est ça, sauf que moi, je préfère que ce soit des toasts au Nutella et non pas du Nutella au toast.
Ah, dans tout, moi, je suis plus dans le Nutella au toast. Mais. Fait que. Ouais, tu sais, c'est super, puis je trouve aussi, tu sais, pour en venir à faire un petit lien aussi avec le visuel du film, les décors, quand ils sont dans l'asile, je sais pas, je le trouve, c'est là que je le trouve aussi à son plus efficace comme personnage, là. De la manière qu'il deal pis qu'il sert, tu sais, il sert des autres autour de lui, des autres fous.
Ouais. Ouais. Pis, comme celui-là qui est tout le temps assis sur sa chaise.
Ouais. C'était carré, là. Man, il est comme. Ah! Il fait capoter. Mais, en passant, c'est-tu moi, il y a un sérieux problème dans cet hôpital-là?
De quoi tu parles?
Il y a vraiment des gens qui vivent dans ces conditions-là, dans un hôpital psychiatrique. Là. C'est dégueulasse.
C'est pas génial, j'avoue.
Écoute, je sais qu'aux États-Unis, leur système de santé est pas super, mais c'est si pire que ça. J'espère que non. Là.
Puis on se rappelle aussi que le père de Brad Pitt, c'est un scientifique full riche. Il vit dans une espèce de baraque de la mort, man. Puis son fils, il est dans un asile crade comme ça.
Mais il sait pas son père. Parce qu'à un moment donné, quand
Bruce Willis va
se sauver, il dit, moi, mais tu sais comment te sauver d'ici, pourquoi tu le fais pas? Mais moi, j'ai pas besoin, j'ai juste appelé mon père. Puis quand mon père va savoir que je suis ici, il sera pas content, puis il va me mettre dans une belle place. Fait que...
J'avais oublié ça.
Je me suis vraiment posé la question, est-ce que les gens qui ont pas d'argent aux États-Unis se ramassent dans une affaire de même? J'espère que non. Là. Ça serait horrible, là.
Puis moi, j'aime bien, dans les show notes, là, le dernier point avant la question du geek.
Oui.
Dans la section autre, il y a juste les fesses à Brad Pitt puis à Bruce Willis.
Tu sais qu'à chaque semaine, j'essaie de mettre de quoi par rapport là-dedans. Ouais, on a le droit, dans le même film, aux fesses à Bruce Willis et à Brad Pitt. Il y en a une, mais la scène... Justement, où on voit les fesses à Bruce Willis, ça, je me disais, hey, j'espère qu'ils font pas ça pour vrai à du monde. Tu sais, où ils donnent une douche à Bruce Willis, là, à l'asile, là, où genre il lave avec une hose, pis un genre de balais avec des poils vraiment durs, là.
Ouais.
Il frotte avec ça, là. J'étais comme, mais voyons donc. Mais, je préfère quand même la scène où on voit les fesses à Brad Pitt, tu sais, quand il pète une coche dans la chambre, pis qu'il saute de lit en lit, pis avec les là, ben c'est super. C'est avec ça que j'ai découvert Brad Pitt. Mais...
Excellent. Bon ben, allons-y.
Ah ouais.
Donc, Sébastien.
Oui.
Je disais tantôt que Brad Pitt, il a fait une audition pour ce film-là avant d'être connu. C'est pour ça qu'il a réussi à signer que les réalisateurs, les producteurs ont réussi à signer Brad Pitt à un salaire vraiment moindre que ce que ça aurait pu être. Bref, il était pas tout seul à passer cette audition-là.
Oui.
Qui a failli gagner le rôle à la place de Brad Pitt. Hmm. Évidemment, tu pars à 10 points si tu réussis à me le donner, puis je te donne un indice au coût de 1 point.
Je vais commencer avec la réponse que je dis toujours. Chuck Norris. Ça aurait été carré.
Ça aurait été hallucinant.
Un indice.
C'est un autre gros, gros nom américain qui est habitué de faire le rôle des rôles de fou.
Rôle de fou?
Ouais.
Non, t'as 10. J'ai un dans mon cerveau en ce moment.
OK. L'acteur est reconnu pour beaucoup de rôles qu'il a fait dans les films de Tim Burton.
Ah! Lui, là, qui bat sa femme, là.
Hein?
C'est pas... voyons! Ah! J'ai un blanc de mémoire.
Qui bat sa femme?
Oui! je vais te l'expliquer si je le sors le nom. Johnny Depp.
Oui!
T'as pas vu, man?
Non.
Il aurait... Il s'est divorcé avec sa femme, Amber Heard. Puis elle dit, c'est parce qu'en tout cas, qu'il aurait été violent avec elle. Puis elle l'a filmé avec son téléphone, genre son insu. Puis j'ai vu ça sur internet, là, il est complètement saoul, là, il a genre bu full de vin. Là. Puis là, quand il voit que. Si tu le vois se remplir un verre de vin, genre comme. Un litre là, de vin dedans. Puis il voit que sa femme le filme, puis il pète une coche, puis il pitch la bouteille, puis le verre, puis ça, puis ça arrête, là, en tout cas. Ouais.
Ah ben.
Depp, a des problèmes.
Pas facile, c'est pas facile.
Ben, c'est sûr que sa carrière d'acteur a pris une tournure de marde. Il faisait tellement des bons films, là, c'est de la marde. Chaque fois qu'il joue dans un film, c'est une catastrophe. Que... Hey, j'ai eu combien, là?
8 sur 10.
Wow! Je pense que je peux me qualifier de gagnant.
Oh, oui, absolument.
C'est toi qui décides, là.
Oh, oui.
J'étais à deux doigts de peser sur le piton de Cache-Père. J'allais me tromper. Bon.
Mais c'est ça. Donc,
vas-y. Non,
j'allais juste conclure en disant que.
Excuse-moi, je t'ai oublié.
Ça a failli être Jack Sparrow, en fait, le personnage à Brad Pitt. Jeffrey Coins a failli s'appeler Jack Sparrow.
Là, j'imagine. Imagine-toi, là. T'écoutes Twelve Monkeys. Mais que. C'est pas. Johnny Depp qui fait Jeffrey Goins. C'est carrément Jack Sparrow, tu sais, avec le costume pis tout, là. Ça aurait été complètement débile, là. Ça aurait été super beau. Ah, y a une occasion ratée. bon, on va continuer. Hello. Avec les extras de la semaine. Ah. Aujourd'hui, là, je suis comme tout déboussolé par le par tout ce qui s'est passé. Je suis comme ah, je suis un peu perdu. Je manque de me tromper de piton à chaque fois. C'est pour ça que c'est long. Je suis comme c'est-tu le bon piton?
Moi, j'ai vraiment failli me tromper de piton parce que j'étais ennuyé parce que j'ai full des allergies, mais j'ai failli raccrocher au lieu de fermer mon micro.
Ça aurait été beau, ça. Les extraits de cette semaine sont très c'est très lourd en Brad Pitt parce que compte tenu du personnage qu'il joue dans le film, c'est un personnage qui est riche en extraits pour Vision X.
c'est sûr.
Fait que ouais, on va avoir beaucoup de Brad Pitt et on va commencer par une petite scène à l'asile où Brad Pitt parle des jeux.
Games you want to get out. See? More games. Games, they vegetize it. See? Yeah.
C'est que j'aime dans cette scène-là, c'est que tu sais, quand tu l'entends faire, tu sais, il y a une vieille madame en train de jouer à un jeu, puis là, il arrive derrière elle, il fait comme s'il donnait deux coups de poing derrière la tête. C'est games, c'est vraiment... they vegetize you.
c'est vraiment wrong. Socialement, très, très wrong, cette scène-là. Ah ouais. Il crie après tout le monde, puis c'est weird.
Mais en plus, je trouve qu'il y a une espèce de critique, si tu veux, de justement de comment la société, on deal avec la maladie mentale, puis comment on... Tu sais, dans le fond, on les envoie pas dans un asile pour les aider, tu sais, on les envoie pour... Puis son personnage, dit souvent, pour protéger la société normale des gens comme eux. T'sais, il a dit, ah, nous autres, on est ici parce que faut pas qu'on soit là-bas. Parce que si on était là-bas, c'est comme un virus. On va se répandre. Là, les gens, ils vont devenir comme nous. T'sais. Fait que, ouais, j'adore ça. Puis le truc des jeux qui sert, dans le fond, à les garder tranquilles.
Ah, non, c'est excellent. Il dit pas aussi, c'est comme si t'avais pris des pilules ou je crois, un truc comme ça. Il y a un commentaire là-dessus.
Ouais, puis ouais. C'est exactement la même affaire que prendre des pilules. Ouais, il en parle. Justement, parlant de pilules. Le prochain extrait, c'est encore une fois Jeffrey Goines qui parle. Là, il parle de drogue.
Drugs! What did they give you? Dorsey? Haldol? How much? How much?
Il connaît son affaire.
Puis tu sais, j'ai pas gardé ce qu'il dit après, mais j'aime ça. Il dit à Bruce Willis, dans le fond, connais tes doses. Tu sais, parce. Tu vois qu'il est contrôlé par le dos, mais justement, le personnage de Bruce Willis, il se fait donner ses pilules. Et man, il est assis en train de regarder la télé, et il bave. Tu sais, en tout cas, je trouve que ouais, toute cette scène, c'est probablement une de mes parties préférées du film quand ils sont à l'asile.
Ben, tout le film, ouais, c'est vraiment une bonne scène, mais c'est tellement trash ce film-là. Moi, il faut que je te fasse une confidence. Là, quand j'avais écouté ce film-là, je l'avais écouté au cinéma.
Okay.
À l'époque, là, en 96. Puis, man, j'avais pas aimé ça. Là. J'étais sorti de là, puis j'avais pas aimé ça parce que ça me rendait trop inconfortable. T'sais.
Ouais.
Puis, je l'ai réécouté cette semaine, évidemment. Et puis, j'avoue que je me suis senti encore une fois inconfortable. Je trouve que c'est un film qui rend mal à l'aise, tu sais. Puis j'avais pas aimé ça en 96. Maintenant, je suis plus à l'aise avec ça parce que je réalise que c'est vraiment un peu le but du réalisateur de nous rendre inconfortables dans ça à plein de niveaux, tu sais, au niveau social, au niveau de la vision des personnes dans l'institution, ça. Puis cette scène-là, justement, où est-ce que, tu sais, ils bavent. Ça nous rend, tu sais, on n'est pas habitué de voir du sale à l'écran, tu sais.
Ouais.
Faut que tout soit propre, faut que tout soit clean, faut que tout soit beau, faut que, tu sais, on veut pas rien voir de pas beau, tu sais. Puis je trouve ça bon cette scène-là parce que justement ça casse un peu ce moule-là de c'est lettre là, c'est pas beau. Voilà.
Ouais.
C'était mon éditorial.
T'as tout le côté, tu sais, en plus la place est dégueulasse, l'asile est comme tout vieux, tout pété.
Ouais.
Tu rajoutes à ça la couche où les psychiatres ils ont l'air de s'en sacrer là.
Ouais, genre. Ouais.
Ils sont quand même pas... Fait que, ouais, je comprends. C'est un film qui rend inconfortable parce qu'il dit aussi... Il parle de beaucoup de choses qui nous rendent inconfortables. Il dit beaucoup de choses qu'on veut pas nécessairement entendre.
Absolument.
Puis il nous montre plein d'affaires qu'on veut pas voir, mais que malheureusement, il existe, tu sais.
Ouais.
C'est pour ça.
Ouais, absolument. Le prochain extrait, ça s'appelle Sagesse.
Ouais, la sagesse d'un fou, en fait. On va écouter comment Jeffrey Goines est quand même pour un fou... You're bright, huh?
I'm not crazy. Of course not. Of course not. You want to escape, right? That's very sane. That's very sane.
Il a un peu raison, quand même.
Ouais. Mais tu sais, ce personnage-là, il est vraiment très intense. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que, tu sais, dans le fond, là, il est très conscient de sa situation. Il est très conscient de ce qu'il fait. Il est over the top, mais t'sais, il sait quelle drogue il prend, pourquoi. Il sait qu'il est dans l'asile, mais que s'il dit à son père, il va être sorti de là. Dans le fond, il est très conscient là, de sa situation. Là. Il est très, très, très conscient.
il est déconnecté un peu de la réalité qui est créée par la société. C'est ça, là, tu sais. Il est extrêmement marginal, dans le fond.
Ouais, bon, ouais, c'est ça. Il est marginal, que, ouais, mais est-ce qu'il est...
Est-ce qu'il est fou?
Dur à dire.
C'est... Ouais, yeah, c'est ça. C'est ça, encore une fois, ça va dans l'inconfort de la patente, là, tu sais. Ce gars-là est à l'asile, mais... Y a-t-il une maladie mentale? Tu sais, c'est ça que j'aime. Il parle pas nécessairement de maladie mentale.
Puis, ouais, absolument.
Tu sais, il dit, tu sais, dans l'extrait que j'ai mis au début comme intro, tu sais, puis il voit la télé, puis il parle des pubs. Puis il dit, on est des consommateurs. Si on consomme pas, on est des fous. Pis c'est pour ça qu'ils nous mettent ici.
C'est ouais, quand même une belle critique sociale.
Ouais, 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 j'adore ça.
Oh! Excuse-moi, je viens de voir les chiffres là, du film, les fiches, les chiffres exacts. Hey, 29 millions ça a coûté. C'est ouais, quand même vraiment pas si gros que ça. Là. Ça a rapporté 160 millions. Même.
Ouais. 168,8. Ça a été rentable. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est sorti une super bonne journée, en fait.
C'est sorti ouais, quand? J'ai pas vu.
Le 29 décembre 1995.
Ah ouais. Ah, moi, ici, sur IMDb, j'ai le 5 janvier.
Ah, moi aussi, je vois 29... Ouais, je vois 29 décembre 95. Peut-être qu'il y a eu une sortie, mettons, en Amérique, une sortie en Europe.
Ah, peut-être. Mais... en tout cas. Mais, ouais. Bref,
okay, c'est ça. J'avais c'est... exactement 13 ans.
Ça, moi, j'en avais 16.
Un rire. Tu sais que j'aime ça trouver des rires bizarres à chaque fois qu'on fait un film. J'en ai trouvé un autre dans celle-là. C'est tout. J'aime ça. C'est comme une espèce de fétichisme. De trouver des sons bizarres dans les films. J'en avais un autre, mais un autre son bizarre là, que Bruce Willis fait, mais je l'ai coupé. Je me dis, bon, c'est assez un son bizarre, là, ça suffit.
Mais c'était quoi ce son espèce... bizarre là?
Ok, Bruce Willis fait un moment donné dans le char, il fait comme genre une espèce de rire avec un semi-A rire, puis genre il fait ça de même. Quand il écoute de la musique, puis il trippe.
le prochain extrait, est-ce que c'est encore de l'asile?
Ouais, écoute, l'asile était riche en extraits. C'est Brad Pitt, encore une fois, qui fait le fou, mais qui a un moment de c'est ça, tu sais, ces petites espèces de petits moments de perles, de lucidité, de sagesse, comme tantôt. Il y en a une autre là-dedans. J'adore ça. You dumb assholes, I'm a mental patient, I'm supposed to act out. T'as-tu compris qu'est-ce qu'il dit?
Oui. I'm supposed to act out.
You dumbass. Parce que tu sais, ils sont comme, arrête. Ben oui, mais je suis fou. Je suis supposé de faire ça. Écoute, j'adorais ça.
C'est une belle critique.
Ben oui, parce que tu sais,
dans le fond, ça sert à ce que les gens fassent.
Tu sais, là, il fait juste parce que ça tente. C'est ça l'affaire. T'as pas l'impression que c'est qu'il y a un problème. C'est que ça tente de faire ça. Puis il le fait, c'est tout, là.
Ouais. Okay. Ben, ça, on en revient à la question de tantôt, tu sais. Brad Pitt, y es-tu vraiment fou? Y es-tu vraiment dans le besoin de... Non, il est très lucide, là. Il a vraiment... Il sait ce qu'il fait, là.
Ah, ouais.
Beau personnage.
Maintenant, une chorale. Ouais, on aime ça, une chorale? C'est le fun?
Je pense que je sais la scène à laquelle tu fais référence, là.
Écoutons la belle chorale. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you. Congratulations! Well done! Well done! Well done! Well done!
C'est magnifique.
La question, c'est, est-ce que le réalisateur leur a demandé d'être poche? Ou est-ce qu'ils sont juste poches naturellement, tu sais?
Est-ce qu'ils ont pratiqué? Voilà la question.
Ah, c'était cœur, hein? C'est tellement... Moi, ce que j'aime, c'est la scène, tu sais. Là, t'as Bruce Willis qui se réveille, tu sais, qui vient de revoyager dans le temps, pis tout ça, pis... Il a l'air un peu d'un vape, pis il rush, pis il est comme... Pis c'est la première affaire qu'il y a dans sa face, pis ce qu'il réveille, c'est ça, t'sais. Moi, j'imagine à sa place, j'aurais fait comme... Oh, man! Qu'est-ce qui se passe? Ouais,
la prochaine extrait, c'est la punition. Une punition.
Ouais, une punition, oui. Faut pas que tu dises ça à ta fille, ok?
And if you forget one thing, I will have you shaved, sterilized, and destroyed.
La question que j'ai, David.
Oui.
J'ai une question pour toi sur ça. Pourquoi, s'il va les détruire, avant, il veut les raser et les stériliser? C'est pas un peu too much, tu trouves?
Overkill. Overkill.
Mais en même temps, c'est encore une fois, c'est un lien avec. Bah, tu sais, lui, il défend le droit des animaux, puis il veut pas que les tu sais, utilisent les animaux pour tester des
médicaments, ouais.
Ouais. Fait que là, tu sais, c'est un parallèle avec le traitement que les animaux reçoivent, tu sais. Rasé, stérilisé, fait que, tu sais, c'est ça, on dirait que Terry Gilliam a trouvé une manière de toujours, rentrer ce petit message-là un peu partout dans le film, là.
Mais je te répondrai avec une autre question.
Vas-y.
Quand tu joues à Hearthstone, là, pis que t'as un minion qui fait genre 10 de dégâts, là, pis que ton adversaire, lui, il est rendu à 3 points de vie, là, tu l'utilises-tu ton Hunter Hero Power pour le réduire à 1 avant de le tuer avec le minion qui fait 10?
Non, ça dépend. Moins 10? Ça dépend de la quantité de matchs que j'ai perdu avant. Si même, tu sais, des fois, genre, si tu pognes un streak où tu perds beaucoup, là tu peux même faire monter ton tu sais, l'attaque de ton minion, là. Des fois, je le fais juste par principe que je peux, genre, juste pour dire que je peux te faire encore plus de dégâts!
Et voilà, tu réponds très bien.
Je comprends. tu viens de me l'expliquer. On va parler d'inspiration ici. D'inspiration pour faire certaines choses. Tu vas comprendre vite.
Whatever gets it up for you, Jack.
Ah ouais, ça c'est la scène avec le. Ben, c'est le pimp en fait, là.
Ah non, c'est pas pimp, c'est l'hôtel à pute.
C'est ça. C'est le gars qui est à la réception, là.
De l'hôtel à pute, whatever gets it up for you, Jack. C'est comme. Genre, she's not an honey babe, she's my psychiatrist. Whatever gets it up. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé cette bout-là. Et je pouvais pas mettre des extraits de 12 Monkeys sans des bruits de singes.
C'est sûr.
Ouais, ça prend des singes. Voici les singes.
Nice.
On peut même faire un lien avec l'extrait avant puis celle-là, si on veut. Côté sonore. L'inspiration. L'inspiration puis les bruits. Non,
ok, je pensais que t'étais en train de me dire que ça te donnait des érections les bruits de singes. Ok.
Non. Je suis pas singophile, là. Ça va. J'essaie d'arrêter.
Bref, c'est on en arrive à la singe. Non,
effectivement. La trame sonore.
Qu'est-ce
que
t'en as
pensé? Paul Buckminster qui a fait la trame sonore. Je pense que c'est à peu près la seule trame sonore. C'est la seule que j'ai vue qui a faite. C'est un gars qui a écrit beaucoup de chansons. D'ailleurs, on peut regarder un peu. Je pense qu'il a écrit des tunes pour Céline à un moment donné. Je sais plus de ce
qu'il
a. Ok, il a écrit pour Taylor Swift, Mika, Guns N' Roses. Mika, Michael Bublé. C'est écrit genre arrangeur, conducteur.
Ouais.
Kenny Rogers. Mais...
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'environnement musical du film. Je sais pas si on doit vraiment ça à Paul Buckminster ou à un éditeur sonore quelconque, là. Mais moi, j'ai trouvé que la musique rendait vraiment inconfortable. À chaque fois qu'on voit des animaux, il y a des espèces de tango, puis après ça, il y a de l'autre musique qui n'a pas rapport. Puis... Que Bruce Willis, la musique dans le tour, tout ça, il y a des scènes qui sont très, très lourdes de musique puis de son. Puis ça rend inconfortable, tout ça. Puis il y a une espèce de, j'aime ça dire, dichotomie dans tous les épisodes de Vision X. Bref, il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'on voit à l'écran puis ce qu'on entend, ça fit pas du tout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet aspect-là.
Ouais, tabarouette, il y a un B-52 qui vient de passer dans ta rue.
C'est une moto.
Ok, je pense que le crime, c'est la troisième guerre mondiale. Mais, non, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve ce qui fait beaucoup aussi, ce qui est bien, là, c'est le thème principal à l'accordéon qui aide à cet inconfort-là. Mais c'est tout, là, on s'entend. Là.
Mais comme je te dis, c'est
moi,
pas
j'ai vraiment
pas
aimé ça.
C'est pas tant la musique que j'ai aimé que l'atmosphère sonore. T'sais, c'est pour ça que je disais tantôt un peu plus tôt. Est-ce que je pense qu'on doit plus ça à un éditeur quelque part qui s'est dit. Ouais. Ben, peut-être même au réalisateur qui s'est dit on va patcher ça de musique qui fit pas, il va avoir un inconfort avec ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ça. Ça, je trouve que c'est bien réussi. Est-ce que la musique en tant que telle est grandiose? Non. Non. Vraiment pas.
Non. Pas du tout, en fait. Fait que c'est ça, c'est correct, t'sais. Je vais pas me garrocher à acheter la trame sonore. Tu peux juste, t'sais, vous pouvez juste vous acheter le thème principal, si vous voulez. 99 cents. Sur iTunes. Donc, le moment de vérité. Le moment de vérité. C'est quoi ton score?
8 sur 10. Et le tien?
8 sur 10? Moi, je donnais 9.5.
Oh! Ah.
On est quand loin même. Aujourd'hui. Ben, vas-y, parle-moi de ton 8.
Ben, je trouve que c'est un bon film qui vaut la peine d'être vu. Est-ce que je le réécouterais de façon régulière? Non. Vraiment pas. Je trouve que c'est un film qui est complexe, qui est bien construit, qui a une bonne histoire, des bons personnages. Sauf que, tu sais, est-ce que l'acting est grandiose? Non. Est-ce que la musique est grandiose? Non. Est-ce que je réécouterais ce film-là de façon régulière? Non. Donc, c'est ces aspects-là qui ont fait en sorte que moi, je donne plutôt 8 sur 10. Et puis toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu donnes 9.5? On s'entend, là, c'est un très, très, très gros score. Là.
Écoute, j'ai vu ce film-là plusieurs fois parce que je l'aime énormément. J'adore son scénario. J'aime les couches, la profondeur de toutes les choses qu'on trouve là-dedans. Comme j'ai parlé de... tout au long de l'émission, de l'inévitabilité d'espèce de destin, de l'histoire qui... Tu peux pas changer le passé. Toutes les critiques qu'on passe, justement sur que ce soit qui est fou, qui est normal, qu'est-ce qui... c'est sur la société, sur toutes ces affaires-là, il y a plusieurs couches. C'est un oignon, ce film-là. Puis à chaque fois que je l'écoute, je trouve une autre couche. J'adore ça. Je trouve qu'il y a une richesse, il y a quelque chose... C'est une œuvre... C'est une super belle œuvre du milieu des années 90. Ça reste une œuvre marquante du cinéma de cette époque-là. pour moi, c'est un must. Il faut que tu aies vu 12 Monkeys. C'est ça qui amène à ce score-là, à 9.5, parce que, il y a quelque chose de spécial dans ce film-là. Mais c'est beaucoup. T'sais, on en voit des films à chaque semaine, puis quand tu regardes dans les scénarios. La c'est profondeur de scénario, puis les, ouais. C'est ça, tu vois que ça a été vraiment, c'est conscient. Tout est là. Il n'y a rien qui est fait par hasard dans ce film-là. Puis même quand tu disais, puis on n'était pas d'accord, tu sais, moi j'aurais aimé ça voir un Philadelphie plus post-apocalyptique, mais ils l'ont pas fait faute d'argent, mais en même temps, ça fit avec le reste. Tout se tient, tout est. Fait que c'est une super œuvre. Dans les salutations, il n'y a rien là, mais j'en ai une à faire, si ça te dérange pas.
Ben non, je t'en prie, vas-y.
On l'a déjà salué, je pense, Yves Nadeau, à l'émission. Mais j'aimerais ça en reparler un peu à cause de ce qu'il fait avec Pod Québec. Je trouve que c'est super que Yves, il donne de son temps, hein, parce que ça prend du temps, faire une chose comme ça, de son argent. Pour il a créé Pod Québec, qui est un agrégateur de podcasts. Il y en a déjà d'autres au Québec, mais la particularité, puisque je trouve vraiment cool le Pod Québec, c'est qu'il y a une radio web qui est en continu, qui joue des podcasts toute la journée, à tous les jours. C'est super. Je pense que c'est vraiment le fun pour nous aussi en tant que podcasteurs d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, parce que ça permet aux gens au Québec de découvrir des podcasts. Ça permet aussi d'avoir une façon simple d'écouter les podcasts. Parce que c'est pas toujours facile. Des gens qui comprennent pas le principe d'utiliser une application sur ton téléphone pour aller chercher le podcast, puis de s'abonner à un flux RSS ou de, tu sais, si t'as pas, y en a iTunes, ça simplifie pour certaines personnes, mais là, si t'as pas un téléphone Apple, les gens savent pas quoi faire. C'est pour ça, mettons, que je mets les émissions sur YouTube, parce que pour, y a des gens qui comprennent pas trop comment écouter les podcasts. YouTube, c'est super simple. Ils vont, tu sais, ils partent la vidéo puis ils l'écoutent comme ça, là. Ce qu'Yves fait, je trouve que c'est super, puis c'est ça. Merci beaucoup, parce que ça nous aide. Puis en passant, allez tous faire un tour sur le site Pod Québec, puis allez mettre un 5 étoiles à Vision X, hein. On est en premier en ce moment, on veut rester là. Donc allez là-bas, puis profitez-en pour écouter, là. Il y a au-dessus d'une centaine de podcasts sur Pod Québec. Ça vous permettre de découvrir, voyons, j'ai de la misère à parler. À la fin de l'émission, j'ai tout le temps de la misère. Découvrir ce qui se fait au Québec. Il y a des super bons podcasts. On a plein de gens encouragés. Puis c'est ça, ce qui est le fun sur son site, c'est qu'il y a les vidéos YouTube dessus. Il y a les liens pour le RSS. Il y a les liens pour notre site internet. Il y a les liens pour notre Patreon. Ils mettent tout ça. Ils s'assurent que on peut se trouver. Il y a des liens pour Google Play Music pour ceux qui ont des téléphones Android, tout ça. Pour être sûr que les gens puissent vraiment aller chercher nos émissions. Puis d'ailleurs, Yves, il se part un nouveau podcast. Je pense qu'il a fait un épisode 0. Là. Je pense que c'est Tech News Québec. Fait qu'allez voir ça. Là. Allez l'encourager puis le remercier pour ce qu'il fait pour la communauté du podcast au Québec.
Très belle salutation, Sébastien. Ouais. Tu t'es surpassé.
Ah, je sais. C'est mon t-shirt Mario qui m'inspire. Je sais
pas. Tu t'as pris un champignon avant.
Non, ouais, il était bon en tabarouette. J'aurais dû donner un champignon à mon ordi, peut-être qu'il aurait marché comme du vent. Fait que, si jamais un jour, il y a quelqu'un qui nous écoute pis qui veut faire un podcast, vous allez voir, c'est super le fun. Des fois, tout chie, mais c'est super le fun. La semaine prochaine, on va faire un épisode sur Galaxy Quest, si je me souviens bien.
Ouais.
On a inversé l'ordre pour plaire à ma blonde. ouais, j'ai bien hâte de voir ça, c'est un film que je trouve plaisant, que j'ai déjà vu. Pour suivre toutes nos activités, ça, trouver tous nos épisodes, trouver aussi des liens pour notre Patreon, Facebook, Twitter, tout ça, vous pouvez aller sur notre site qui est moi-geek.com/visionx. Sur Facebook, vous pouvez nous trouver, vous avez juste à chercher Vision X, Vision X Podcast, vous allez nous trouver. Allez liker notre page Facebook, ça va vous permettre de... encore une fois, restez au courant de quand il y a un épisode. Ça va vous permettre d'avoir le lien pour écouter les épisodes live. Parce que oui, on le fait sur YouTube, on le fait en streaming, on le fait live. Vous pouvez participer. Il y a un chat room, vous pouvez venir parler, nous déconcentrer pendant l'émission. C'est super. De toute façon, moi, ça m'en prend pas beaucoup. Fait que vous pouvez essayer de dire des niaiseries, vous allez voir. Communauté, vous pouvez jaser entre vous. C'est super le fun. Venez. Plus on est de fous, plus on rit. Vous pouvez nous envoyer aussi un courriel à visionxcast@gmail.com. Si vous avez des commentaires, des insultes, non pas d'insultes, des commentaires, vous voulez participer à la discussion ou juste dire bonjour, ou ça vous tente qu'on vous salue ou qu'on salue quelqu'un que vous connaissez, envoyez-nous un email. Vous avez des suggestions de films, écoute, on a une liste là, une liste de genre 160 films à peu près, mais on est toujours prêt à rajouter. Là.
J'aimais ça parce que tu as rajouté quelque chose sur nos notes dernièrement, c'est le numéro de l'épisode qu'on va faire, ouais. Via le film, tu sais. Puis, en ce moment, on tourne l'épisode 25, je pense, ça? Ouais. Ouais, on est en train de tourner l'épisode 25. Excusez, j'ai mis la main devant le micro. sauf qu'on a une liste jusqu'à 50... Ouais, tabarnak. T'as numéroté jusqu'à 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
les autres, c'est plus une liste, ça veut pas dire l'ordre.
19, 20, 21, 2, 3, 24. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 15, 16, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Donc, 112 plus 50, j'ai dit. Donc,
ouais. 162. 162. On a à peu près 3 ans et un peu plus de vision. Ça liste. Oh non, mais écoute, à un moment donné, cette semaine, je me suis amusé à fouiller. J'ai juste racheté des films, Tu sais, j'y pense. Fait que j'aimais. Je disais, je vais pas oublier. Mais honnêtement, là, si vous aimez ce qu'on fait, inquiétez-vous pas, on s'en va nulle part. Je pense qu'on va faire des visuels que j'ai écrit sur Twitter en disant, je pense qu'on en a pour 30 ans. Mais même à ça.
Ben, comme je l'ai déjà dit, c'est que ils sortent des films plus vite qu'on est capable d'enregistrer les podcasts.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai même pas réussi à aller voir cette semaine, cet été, en fait, j'ai pas réussi à aller voir Star Trek Beyond, j'ai pas réussi à faire Suicide Squad, j'ai pas réussi à faire ouais, plein de trucs, il y en a plein, là, en tout cas.
On est là pour longtemps.
Quand même, hein.
D'ailleurs, ça, si vous voulez aussi aller suivre, comme j'ai dit, Twitter, tantôt j'ai écrit des affaires, ben, si vous voulez suivre notre Twitter, allez à visionx_podcast. Underscore, pour ceux qui sont pas au courant, c'est la petite barre en dessous. Donc, Vision X, la petite barre en dessous. Podcast sur Twitter, vous pouvez nous suivre là. Vous allez aussi avoir le lien justement au YouTube Live. Et c'est ça. Ah, allez sur iTunes aussi. Allez sur iTunes. C'est important d'aller sur iTunes. Même si, mettons, vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas de... Allez quand même sur iTunes. Hein. Puis allez nous mettre un 5 étoiles. Écrire une petite critique. Parce que là, à cette heure, on a assez de gens qui ont été... Que ça apparaît, les étoiles. Ça prend une certaine quantité de personnes pour que les étoiles apparaissent. Fait que maintenant, on a 5 étoiles sur iTunes qui apparaît quand les gens vont voir. Fait que, allez-y, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça aide à aller chercher plus d'auditeurs. Fait que, ouais. Et, aussi, n'oubliez pas, notre Patreon, patreon.com/sbalbino, B-A-L-B-I-N-O. Vous pouvez aller contribuer à notre Patreon. 1$ par mois, c'est tout. Puis ça, vous avez 4 épisodes, vous nous aidez. Ça va permettre d'améliorer l'aspect technique de l'émission. Surtout en procurant un micro à David. Il y a plusieurs paliers que vous pouvez participer. Puis d'ailleurs, en même temps, on peut faire une double salutation parce qu'on a quelqu'un qui a participé au palier à 10$ par mois, là, qui est François Gagné. Puis au palier de 10$ par mois, ce que ça vous donne, là, c'est magnifique. C'est écœurant ce que ça vous donne. Si vous nous donnez 10$ par mois, vous êtes invité à un épisode. Hein? C'est pas magnifique, David?
C'est absolument magnifique.
Imaginez-vous l'opportunité. Là. C'est l'opportunité d'une vie de venir faire un épisode avec nous. Fait que, allez faire un tour sur Patreon. Fait que merci beaucoup à tout le monde de nous écouter. Merci, David.
Merci à toi, Sébastien.
Merci de la patience des problèmes techniques au début. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.
Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute.